Au mois d'avril, on était ici à Pâques. C'était vraiment très, très édifiant et encourageant pour nous de pouvoir adorer avec vous. Merci de votre accueil. Merci aussi de votre foi. J'ai entendu plusieurs prier concernant la situation actuelle. Pasteur Guillaume et moi, on se comprend très bien. On est du même esprit vis-à-vis... Pardon? OK. Excusez. Pas compris. Mais c'est ça, on est du même esprit, donc on marche ensemble pour ça. Et puis, j'étais vraiment honoré d'être invité pour adresser la congrégation ce matin. Et en fait, il m'a appelé jeudi. J'arrive d'un voyage au Nouveau-Brunswick. On est parti pendant 4 semaines là-bas. C'était merveilleux parce qu'ils avaient fermé l'année passée. Puis là, ils ont levé tout il y a quoi, à la fin du mois de juillet. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Puis la minute qu'on va, on part. Puis on revenait justement jeudi. On était à la rivière Well. Et là, le téléphone sonne. C'était Pasteur Guillaume. Il dit, hey, je sais que c'est la dernière minute. Là, mais peux-tu prêcher pour moi? Il m'a raconté tout ça. OK, go. Ça fait longtemps que j'ai dit au Seigneur, chaque fois que tu vas me donner une occasion d'annoncer ta parole, je vais le faire. Donc, vous m'excuserez après, je dois quitter parce que j'ai une réunion à 2h cet après-midi. Donc, ça va... c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous. Vraiment, merci pour votre accueil. Et en juillet, j'avais commencé une série sur les attributs de Dieu. Donc, les attributs de Dieu, ce sont les qualités que l'on attribue à Dieu, qui nous sont révélées dans les Écritures. C'est un sujet important qui, lorsqu'on le contemple, nous plonge dans la majesté de notre Dieu, nous plonge dans l'éternité, nous plonge dans l'infini et nous ancre dans l'absolu, dans ces choses, en fait, dans ce Dieu qui ne change pas. J'avais parlé de la bonté de Dieu qui est manifestée dans sa création, qui continue de se manifester à tous les êtres humains, mais certainement de sa bonté dans la rédemption. Alors que Dieu a mis en œuvre de franchir l'obstacle infini de notre culpabilité. J'avais parlé aussi de sa puissance infinie, et particulièrement en tant que créateur. Et dans ce chant tout à l'heure, dans ce cantique que j'avais jamais entendu, ça parle qu'il a... Il a jeté la poussière des étoiles. C'était tellement clair dans mon esprit que pour Dieu, ce que l'homme voit comme un univers immense, pour Dieu, et ces étoiles qui sont des soleils, des galaxies qui brillent, pour lui, c'est comme... Pour nous, c'est... Oh, pour lui, c'est poussière. Imaginez, vous prenez un petit sac de poussière brillante puis vous faites ça comme ça. C'est aussi facile que ça pour lui. Tout ce qui est a été créé par sa parole. Là, c'est le temps de dire amen, je veux le comprendre. N'oubliez jamais ça. Tout ce qui est apparu à partir de rien. Le cantique le disait aussi, le néant a répondu. Waouh! Et c'est issu de sa parole, de lui-même. Instantanément. L'homme a besoin de temps et pense que Dieu a besoin de temps. L'homme observe la nature et constate que la nature a besoin de temps. Et on le constate aussi. Ça prend 20 ans pour faire un adulte. Aujourd'hui, c'est plus comme 30. Et l'homme pense que ça prend des milliards d'années à Dieu pour créer l'univers. Il l'a créé instantanément. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Psaume 33, verset 9. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Exode, chapitre 33. Mais dans Jean chapitre 1, il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, ce fameux commencement de Genèse chapitre 1. Et il le dit ici, Jean, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Et Jésus a bien démontré que Dieu n'a pas besoin du temps. Vous vous rappelez cet épisode lorsque il y avait une foule de 5000 hommes, et plus les femmes et les enfants, et ils avaient 2 poissons et 5 pains. Et Jésus a dit quoi? Nourrissez-les. Oui, mais Seigneur. Et avec 2 pains et 5 poissons, il a nourri cette foule. On appelle ça la multiplication. Combien de temps ça lui a pris? En un instant. Parce qu'il l'a dit, par sa parole, la preuve, sous nos yeux, ou sous les yeux des apôtres plutôt, qui nous rapportent l'histoire, que Dieu n'a pas besoin de temps. C'est la création instantanée. L'acte créatif de Dieu est un acte surnaturel, il ne faut jamais oublier ça. Le monde est naturel, mais n'est pas issu d'un processus naturel, mais d'un processus surnaturel. C'est sa puissance, il est puissant. Il est tout puissant. J'avais parlé de sa justice, qui est un sujet extrêmement important de nos jours, et je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais je réfléchis énormément sur c'est quoi la justice avec tout ce qui se passe. Ça amène ces notions fondamentales de gouvernance et de justice au premier plan, et on doit réfléchir à ces choses-là. Mais c'est lui qui est le point de référence de la justice. Et il est juste. Cette justice émane de lui. Il n'y a pas de justice humaine d'un côté et la justice divine de l'autre côté. Tu ne peux pas dissocier la notion de justice qu'on essaie, nous, tant bien que mal, en tant qu'humain, de faire opérer. On ne peut pas dissocier ça de Dieu. Et malheureusement, cette fraction est faite dans notre monde et on voit à quel point maintenant on s'en va vers en grec, c'est le anomos, le sans-loi. La loi est mise de côté, c'est le chaos qui s'installe. Il n'y a pas de justice humaine séparée de la justice divine. Il y a une justice, c'est Dieu. Parce qu'il est juste. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et donc, connaître les attributs de Dieu est nécessaire pour comprendre et connaître qui Dieu est et pour comprendre la rédemption elle-même, parce que la rédemption est attachée à Dieu. Toutes les notions qu'on contemple à la croix et dans la rédemption sont attachées en Dieu, à sa puissance, à sa bonté, à sa justice et certainement à sa miséricorde et à sa grâce. Et c'est notre sujet ce matin, comme vous avez vu peut-être dans le titre. C'est A.W. Tozer qui disait dans les années 50 que les attributs de Dieu n'étaient pas un sujet populaire, que les gens préféraient des choses pratiques. Il a dit ça il y a 70 ans. Comment trouver la paix dans les temps troubles? C'est correct. Comment être maître de soi, c'est correct aussi. On veut apprendre comment vivre, mais on ne veut pas parler de celui qui a donné le souffle de vie. Il y a une place pour le pragmatisme, les choses pratiques de la vie, d'accord? Oui, mais cette connaissance de Dieu a besoin d'être le fondement de tout pragmatisme, entre guillemets, chrétien. Des exhortations sans fondement ne sont que du pragmatisme ou de la psychologie populaire ou encore du motivationnalisme. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi tant de confusion aujourd'hui dans l'Église? Pourquoi les concepts de base, d'identité, de pureté sexuelle et du mariage sont tant attaqués aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle d'Église inclusive? Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ces nouvelles tendances, mais ce sont des églises qui s'affichent comme amicales à tout le mouvement LGBTQ+, ou LGBTQ2 maintenant, c'est comme... Pourquoi? Parce que nous ne connaissons plus celui à l'image duquel nous avons été créés. J'aimerais parler de la grâce de Dieu aujourd'hui. J'aimerais donner la parole à quelques commentateurs pendant un instant. Les commentateurs sont toujours intéressants, mais n'oubliez pas, ce sont seulement d'autres lecteurs de la Bible qui réfléchissent, qui pensent, d'accord, qui donnent leur compréhension et avec lesquels on peut entrer dans un dialogue, d'accord. Mais il y en a un qui dit que la grâce de Dieu est une perfection du caractère divin qui est exercée uniquement envers les élus. Très intéressant, on pourrait partir sur une tangente, mais on va me retenir. La grâce, c'est être dans une position, c'est un autre commentateur ici, être dans une position de recevoir la faveur provenant d'une personne. Okay? La grâce, c'est d'être dans une position de recevoir la faveur d'une personne. Donc la grâce, c'est relationnel. C'est pas isolé en quelque part, c'est quelque chose de relationnel. Et donc, la grâce, c'est d'être dans une position de recevoir la faveur provenant d'une autre personne qui, elle, est dans une position d'où elle peut exercer la bonne volonté envers nous en rencontrant un certain besoin. C'est une grosse phrase compliquée, mais ça dit ce que ça dit. La grâce peut aussi être la manifestation d'une disposition de bienveillance ou de gentillesse envers quelqu'un d'autre. Et avec ces pensées, j'aimerais qu'on lise Exode 33, au verset 13. Maintenant, et c'est Moïse qui parle, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, en d'autres mots, si j'ai trouvé faveur, si moi qui suis dans une position où est-ce que j'ai besoin que tu me regardes avec faveur, si maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu es disposé à être favorable envers moi, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. » Et je trouverai encore faveur ou grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Donc l'Éternel lui manifeste sa bienveillance, lui manifeste l'assurance qu'il va être avec nous, ou qu'il va être avec lui plutôt, qui pour nous est une parole importante de savoir que Dieu est avec moi. En termes de tous les jours, on parle de gracier un condamné à mort. Obtenir la grâce, c'est d'obtenir la faveur ou d'obtenir la clémence de la cour sur une base de compassion. Quelqu'un qui va à la cour devant un juge qui a fait une faute, qui a une pénalité X, qui explique sa situation et qui dit « Je vous en supplie, j'implore la clémence de la cour. » Et le juge qui entend et qui dit « Bon, ton cas, là, ça a de l'allure, je suis pas un robot, je suis un être humain. Au lieu de te pénaliser là, ben on va te pénaliser là. » Et il obtient la clémence ou la grâce de la cour. C'est quelque chose qu'on comprend bien. Et ce que nous avons besoin de garder à l'esprit, c'est que cette grâce dont on parle, quand on parle de la grâce de Dieu, c'est une faveur qui doit surmonter un obstacle. Un obstacle infini. La grâce de Dieu doit surmonter un obstacle infini. Infini. Il y a deux mots utilisés dans la Bible pour exprimer ce concept dans l'Ancien Testament. Et le premier, c'est le mot « chen ».« Chen », que nous traduisons par « grâce » ou par « faveur ». Genèse chapitre 6, si vous voulez bien tourner, nous avons ce passage où est-ce que ce mot apparaît pour la première fois. Ce mot « chen » dans l'hébreu qui est traduit par « grâce ». Et nous lisons que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et pour saisir la portée de cette déclaration, il faut regarder ce qui précède. Hein? Verset hors contexte devient un prétexte. Ici, ce n'est pas un verset tout seul. Et il y a tout Genèse chapitre 1, 2, 3, 4, 5 en arrière. Des fois, les « mais » dans la Bible sont d'une grande portée. Mais Noé, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a avant? Eh bien, avant, il y a la création. Chapitre 1 et 2. La chute. l'introduction du péché, l'introduction de ce personnage qui oppose Dieu, le diable. Chapitre 4, le premier meurtre sur une question de, entre guillemets, religion. Et ensuite, la déchéance morale. Chapitre 5, les descendants d'Adam à travers toute cette période avant le déluge. Et chapitre 6 qui nous décrit l'état de l'humanité. Et Jésus nous a dit qu'à la fin des temps, l'humanité ressemblerait à celle-ci dans le livre de la Genèse. Donc, c'est important de voir ici et de comprendre comment était l'humanité parce que c'est là qu'elle s'en va à la même place. Verset 1. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. » Et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je ne veux pas rentrer dans la discussion de qui sont les fils de Dieu, mais je veux simplement, c'est un de ces sujets dans la Bible qu'on continue à réfléchir tout au long de nos années. Puis dans mon point de vue à moi, je crois vraiment que ce sont des êtres angéliques qui sont descendus. Et la raison, je vais vous la dire dans un instant. « Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Car l'homme n'est que chair et ses jours seront 120 ans. Ultimatum ici, la destruction s'en vient. Et ensuite, il y a cette expression, les géants étaient sur la terre après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et ici, c'est une conséquence de ces accouplements. Mais c'est quoi ces géants? Pourquoi ces géants? Mais si on va dans l'hébreu encore, qui nous aide énormément, c'est le mot néphilim. C'est quoi les néphilim? Personne ne le sait vraiment. Mais le mot néphilim a une racine qui est le mot naphal, qui veut dire... tombés. Les Néphilim, ceux qui sont tombés. Et pour moi, c'est exactement cette idée que ces êtres sont tombés, sont déchus. Il y a des conséquences pour eux, évidemment. Mais enfin, les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là. Quel monde étrange ça devait être. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Oups, là, on s'en vient à des choses concrètes ici. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel, Dieu, dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Donc, le jugement arrive à cause de la déchéance, mais. Et verset 6, chapitre 6, verset 8. Mais, face à tout ça, face à ces 10 générations de déchéance, face à la méchanceté et le fait que chaque jour, chaque pensée de leur cœur se tournait uniquement vers le mal, mais, face à tout ça, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette faveur de Dieu, a pourvu un moyen pour que Noé et sa famille échappent au jugement de Dieu. Mais n'oubliez jamais que l'humanité entière était contenue dans Noé. Vous et moi étions en lui. C'est notre Père à tous. Et à cause de ce salut qu'il a visité, l'humanité a continué pour le reste de l'histoire que nous voyons dans la Bible. Genèse chapitre 6, verset 8, Noé trouva grâce, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, oui, de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Il était un homme juste et intègre. Donc, c'est pas juste un accident que Dieu, que Noé a trouvé la faveur de Dieu. C'était parce qu'il était un homme juste, intègre dans son temps. Au milieu de cette corruption, il est juste et intègre. En plus, il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham, Japhet, et la terre était corrompue, la terre était pleine de violence, ça recommence encore. Dieu regarde la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dehors et en dedans. Tout est là, la puissance de Dieu manifestée dans l'acte de création, la patience de Dieu. Il attend 10 générations. un point de non-retour où est-ce que le jugement va tomber, la corruption de l'humanité et même la lignée humaine est polluée. Et ça, c'est mon opinion là-dessus. Mais Noé trouva grâce, il trouva la faveur de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Pourquoi? Bien, il y a seulement une manière d'être juste, c'est d'offrir des sacrifices. Genèse chapitre 4, tout est là aussi, l'institution du sacrifice. Et cette grâce a pourvu un moyen pour que Noé soit sauvé. Je vais les détruire tous, mais Noé et sa famille seront sauvés. Et donc, l'idée de la grâce est juxtaposée avec la notion du jugement. Les deux travaillent ensemble. La grâce, si on veut donner une autre définition, c'est l'acceptation favorable par Dieu. Mais cette faveur doit passer outre nos fautes. Vous voyez, la grâce est comme un diamant mis sur une toile de velours. J'ai jamais vu ça en personne, juste vu des images là. J'ai jamais acheté de diamant, là, bon. Mais pourquoi ils font ça? Ils mettent ça sur un velours noir, ils mettent le diamant, puis là, ouh, ah, tu peux l'observer. Et donc, cette grâce est mise sous la toile sombre de la déchéance, afin qu'elle ressorte dans toute sa splendeur, comme un diamant qui brille. À chaque fois que tu le tournes, tu vois un éclat différent. Et cette faveur est mise sur le relief du velours noir de nos fautes, de nos transgressions, de nos péchés. Et cela est un obstacle infini, parce qu'il mérite un jugement infini. Pourquoi? Romains chapitre 3, devrait tous connaître ce verset, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette privation est l'état naturel de l'homme pécheur. Elle est le lot naturel de l'humain à cause de sa faute. Et cette faute est un obstacle infini à la faveur de Dieu. Elle est infranchissable. Personne ne peut la mériter, cette grâce. Personne ne peut franchir le gouffre infini de sa culpabilité. Personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut sortir de sa poche le paiement infini qui est nécessaire. Mais il peut le sortir de sa poche, mais il va payer éternellement. Il va le payer, mais éternellement. Et donc, une des définitions de la grâce, et c'était mon point de départ dans ma préparation, et je me suis ravisé en cours de route, parce que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est lorsqu'on dit que c'est quoi la grâce de Dieu, comment on définit la grâce de Dieu, ce qui vient tout de suite à mon esprit, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et oui, c'est vrai, mais, elle a été méritée par quelqu'un d'autre. Il a fallu que quelqu'un paye, il a fallu que le paiement soit mis sur la table, et c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice est un paiement infini. Oui, parce qu'il était Dieu, il a pu le faire en quelques heures. Quelques heures, ce que ça va prendre l'éternité à l'humanité déchue de restituer dans la justice effroyable et implacable de Dieu. C'est vrai qu'elle est la faveur imméritée de Dieu, mais elle a besoin d'être qualifiée. Parce que cette faveur a été méritée par le sacrifice de Christ. Cette grâce, elle est gratuite, nous le disons, mais elle n'a pas été gratuite pour Dieu. Il y a un paiement qui a été fait. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et quand ça parle de la mort ici, ce n'est pas juste la mort physique, on le comprend, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, gratuit pour nous, mais qui lui a coûté à lui, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le dû de nos fautes était la mort. Et le regard de Dieu sur le pécheur n'est pas un regard favorable. C'est un regard de justice. Et la Bible parle même d'un regard de colère, on va le voir tout à l'heure. Le pécheur est confronté à une justice implacable qui exige un paiement infini, encouru par une faute infinie. Le moindre péché, écoutez-moi bien, nous place dans cette situation à chaque fois. Et encore, la grâce va briller encore plus grand si on saisit ça. Car si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Encore! Si on était des humains qui avaient fait un tel paiement puis que la personne recommence, on dirait, ben franchement! Dieu est bon. Dieu est bon. Plus le sens de notre perdition sera grand, plus l'appréciation du coup payé pour que nous puissions obtenir la faveur de Dieu va être grande. D'où la reconnaissance. D'où l'adoration. D'où le fait que lorsque pèsez mes mots ici, mais appelons ça une entité, me dit de ne pas adorer mon Dieu, je m'excuse. Avec ce qu'il a payé pour moi, il est digne de mes louanges. Est-ce que ça va me coûter? Ça coûtera ce que ça coûtera. Il est digne de mes louanges. Et sa parole est digne d'être mise en pratique. Sans compromis. Cette faveur est liée à une autre notion quand on parle de la grâce de Dieu. Il y a une autre notion importante qui est attachée, c'est celle de la compassion de Dieu. Si on revient à Exode, chapitre 33, je vais juste vous le lire. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et on voit ce mot « miséricorde » se marier à ce mot « grâce ». Ce vient en hébreu, c'est la grâce, c'est « chen ». Et le mot pour « miséricorde », c'est « raham ». Vous capable de dire ça? Raham. Faites un « ra » français et « ham » comme si vous vouliez, excusez, cracher. Ra. Raham. C'est le mot qui est traduit pour « miséricorde » ou « avoir compassion », raham. La grâce, c'est « reine », c'est la faveur. Le mot « faveur » est vraiment plus proche pour moi. Ah, et ce mot « raham » parle que Dieu a compassion. La compassion, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc, Dieu ressent quelque chose. Cette grâce n'est pas une chose froide comme la justice implacable, intraitable de Dieu. Mais cette grâce est issue d'une compassion, de raham. Et ce qui est très intéressant avec l'hébreu, c'est que les mots ont des racines. Et quand tu vois un mot, tu vas chercher la racine du mot qui prend toutes sortes de significations, mais à sa racine, c'est le même mot qui est utilisé pour le sein maternel. Et je trouve ça très intéressant parce que ça, c'est l'endroit où une mère va porter son enfant. On parle souvent des entrailles de compassion. Et on parle des émotions d'une mère. C'est le sein des émotions d'une mère pour son enfant. Et la compassion de son enfant. Quelle mère n'a pas compassion de son enfant? On va dire que c'est une mère dénaturée. Mais cette... Ce raham est aussi quelque chose de féroce. On parle des Anglais, ils disent « mama bear ». Rencontre un ours privé de ses petits. J'ai entendu une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai eu de plusieurs sources, que dans l'Ouest canadien, une mère a sauvé son enfant de la gueule d'un cougar et elle l'a tué. « Mama bear ». Féroce. Pourquoi tu touches pas à mon enfant? Et lorsqu'on parle de la grâce, on parle de la faveur de Dieu, nous parlons des bienfaits qu'il nous accorde. Et il n'y a personne qui ne peut mériter cela parce que On comprend que cela nous vient parce que le mérite a été acquis par un autre. La grâce est méritée. Elle a été méritée, mais pas par nous, par son sacrifice. Et ne prenons jamais ce passage pour acquis. Des fois, on lit des passages, on les mémorise, et c'est merveilleux ce que vous faites pour la mémorisation des versets. C'est vraiment très bien. Mais souvent, quand on répète des choses beaucoup, c'est comme si elles perdent de leur teneur, si je peux m'exprimer ainsi. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, parenthèse, qui a été payé par quelqu'un d'autre, qui a été mérité par quelqu'un d'autre, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, la justice demande un paiement, et le paiement doit être infini, parce que la faute est infinie. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible nous dit que nous sommes sauvés de cette mort parce que Christ a payé le salaire pour nous. Je vous invite à tourner dans Éphésiens au chapitre 2, en terminant. Et nous voyons dans ce passage que tous, par nature, nous n'étions pas sous la faveur de Dieu, nous n'étions pas sous la grâce de Dieu, mais sous la colère de Dieu, qui est une autre réalité, qui, elle, est attachée à sa justice. Et au verset 3, nous lisons, « Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Et ensuite, ça continue, mais Dieu, qui est riche en racham, en miséricorde, en compassion, à cause du grand amour. Et donc, derrière ça, il y a l'amour de Dieu. Dieu est amour, qu'on n'a pas le temps de déballer, mais c'est tout attaché ensemble. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la reine, la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Regardez le mot infini ici. Il a donné un don infini. Il a livré Christ à un châtiment infini, mais en quelques heures. Et... Ah, je suis rendu où là? OK. L'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté, c'est comme une cascade ici de choses, de notions qui nous parlent de notre Dieu envers nous. Et tout ça est contenu en Jésus-Christ. Car c'est par la reine, la grâce, que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Si je crois, Dieu va me faire faveur. Si je crois et je me repens, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la repentance, tellement important, eh bien, il dit que je vais être sauvé. Mais cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas un paiement que vous avez fait. Ce n'est pas une œuvre que vous avez faite. Ce n'est pas de votre poche qu'est sortie la rétribution. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ceci est exprimé par Ésaïe 750 années avant Christ. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun cherchait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il m'a reçu alors que je ne le méritais pas. Reine, grâce. Il me pardonne sur la base de ma foi et de ma repentance et non celle de mes efforts? Parce que s'il fallait ajouter quelque effort que ce soit, cela équivaudrait à dire que le sacrifice de Jésus-Christ était insuffisant. Donc que son sacrifice n'était pas infini, puisque ma faute est infinie. Et quelle folie de penser qu'on va pouvoir sortir de nos poches quelque œuvre que ce soit pour payer avec des choses limitées et ridiculement insuffisantes une faute éternelle. Ou de rajouter à ce que Christ a fait à la croix, c'est complètement une folie pour nous qui croyons et qui comprenons la rédemption. C'est ce sacrifice qui, en quelques heures, a absorbé l'obstacle infini. Gloire à Dieu! Comment peut-on rajouter quoi que ce soit à quelque chose d'infini? Il a surmonté l'obstacle infini de mes péchés en payant un prix infini pour m'inclure dans une rédemption éternelle et me couvrir de sa faveur. Et l'Éternel répondit, et c'est une parole qui nous est donnée de toutes sortes d'autres manières, même dans le Nouveau Testament, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est l'équivalent qui est dit à Moïse. Tout à l'heure, on l'a vu, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi. » Et combien de fois Jésus dit, « Je serai avec toi, je serai avec vous. » Et qu'il a mis son esprit en nous pour habiter en nous, Père, Fils, Saint-Esprit en nous. Alors, il n'y a pas de plus grande miséricorde que celle de Dieu. Et oui, sa grâce est infinie. Et en terminant, j'aimerais qu'on se rappelle de Noé, si on revient à ces deux notions. Que Noé était juste devant Dieu. Ce n'est pas une justice qu'il avait acquise lui-même par ses efforts, mais parce qu'il avait la foi, il pratiquait les sacrifices comme Dieu avait dit à Adam. Et donc, nous, notre justice n'est pas en faisant des sacrifices comme Noé faisait, mais en tournant les regards vers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, auquel Noé, d'une certaine manière, regardait en avant et auquel nous regardons en arrière. Le centre, c'est Christ. Amen. Et à cause de ça, nous pouvons être déclarés justes. Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc, quoi? Justifiés. Gloire à Dieu! Wow! Ma faute infinie, l'obstacle infini, it's gone! It's gone! Justifié par la foi, regardez ça, nous avons la paix avec Dieu. Dieu est plus fâché. Quelqu'un m'a dit ça un jour, Dieu est plus fâché avec moi. Wow! Parce qu'avant ça, j'étais sous la colère de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyez justes, soyez réconciliés avec Dieu. Je ne vous connais pas, je ne sais pas si quelqu'un ici est encore sur la clôture ou en train d'examiner la chose ou qui est encore en train d'essayer de gagner la faveur de Dieu. Laisse-moi vous dire, c'est impossible! Parce qu'il faudrait fournir un paiement infini pour gagner cette grâce ou cette faveur. Mais il faut reconnaître que Christ est mort pour moi. Je le reconnais et je me repens de mes péchés parce que je réalise l'infinie offense envers Dieu, l'infini paiement qui m'attend si je rejette, si je résiste à Dieu, je me détourne de lui et donc je me tourne vers lui, je crois et je me repens. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière pensée ici, comme on a vu avec Noé qui était juste et qui marchait avec Dieu, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Lorsque Jésus nous sauve, il nous donne la capacité, l'opportunité, le privilège, l'appel même de marcher avec lui. Et Jésus nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Wow! La faveur! Reine, je l'aimerai. Wow! Tu vas m'aimer. Et je me ferai connaître à lui. Il y a toujours des moments lorsqu'on est fidèle au Seigneur, où est-ce que, à travers les vicissitudes et les difficultés, de la vie. Eh bien, il va y avoir des moments où est-ce que il va comme ouvrir nos yeux sur quelque chose. Et il va nous faire comprendre un peu plus qui il est. Il va nous faire comprendre un peu plus une vérité de sa parole. Il va nous encourager. Et dans ces moments où est-ce que nous devons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et qu'il n'est pas là, sachez qu'il a dit « Je suis avec toi tous les jours. Toujours. » Et que par la foi, on détermine que si je n'ai pas cette expérience dans le moment de sa présence, ça ne veut rien dire. Il est là. Il est là, il l'a dit. Croyons ce qu'il dit. Et il promet, il va se faire connaître à lui. J'aimerais qu'on se recueille pendant un instant. J'aimerais vous inviter à un temps de prière. En réponse, je sais que c'est ce que vous avez l'habitude de faire ici. Je trouve ça vraiment excellent. De prendre ce qu'on a entendu ce matin, de le renvoyer à Dieu, de le refléter à Dieu dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Je veux te rendre grâce pour cette grâce infinie. Que ta parole puisse pénétrer vraiment dans nos cœurs. Que tu puisses fortifier celui, celle qui vacille en ce moment. Que tu puisses renouveler la foi de chacun d'entre nous. Et dans ces temps vraiment exceptionnel que nous vivons. Aide-nous à reconnaître et à discerner là où est le compromis. Parce que c'est un test sur le monde. C'est une épreuve. Et ce qu'on est va être manifesté. Ce qu'on croit va être manifesté. Et Seigneur, accorde-nous de ne pas compromettre d'aucune manière que ce soit notre marche avec toi. Je prie vraiment ta bénédiction sur cette assemblée. Je prie que tu bénisses le pasteur, son épouse, que tu bénisses chaque membre, chaque personne, ceux qui sont absents aussi. Visite-les. Fortifie-nous afin qu'on soit le sel de la terre. Et certainement, Seigneur, que cette grâce, cette faveur qui est sur nos vies puisse, ruisseler aux gens qui nous entourent. Et qu'on soit à notre tour aussi prêt à exercer cette faveur envers tous ceux vers qui tu nous envoies. Fortifie ton peuple dans le nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur Dieu, fortifie-nous vraiment. On a besoin de toi pour tout. Seigneur, oui, vraiment, on est dans un temps particulier dans l'histoire de l'humanité. On est dans un temps où est-ce qu'on est mis à l'épreuve. Fais en sorte, Seigneur Dieu, vraiment que, effectivement, que l'on ne fasse pas de compromis. Parce que tu n'es pas un Dieu de compromis, Seigneur Dieu. Que l'on garde cette confiance en toi, Seigneur Dieu. Fais en sorte, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, en nous, que l'on marche dans tes voies, que l'on marche dans ta volonté, Seigneur. Que l'on ne se fasse pas attirer par l'ennemi. Que l'on ne se fasse pas compromettre, mais que l'on marche à ta suite, Seigneur Dieu. Pas par notre propre force, mais par toi-même qui habite en nous, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci pour cette grâce infinie que tu nous as donnée. Et merci pour tout ce que tu fais en nous, Seigneur Dieu. Pour ta gloire, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, pour que l'on puisse être des adorateurs pour toi, que l'on puisse célébrer ta gloire. Seigneur, merci Seigneur Dieu pour cette grâce infinie vraiment. Gloire à toi. Sois béni éternellement en ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce parce que c'est une bénédiction à nos cœurs d'avoir considéré ta personne ce matin une fois de plus, à l'avenir de tes attributs, d'avoir été rappelé que Dieu est devant nous. C'est fondamental pour chacun, chaque être humain de considérer ça. Par contre, Seigneur, j'aimerais confesser devant toi nos compromis ou encore les influences qu'on a laissées corrompre notre jugement et notre appréciation de ta personne et de ton œuvre, Seigneur. En regardant ces problèmes autour de nous, ce monde qui est corrompu comme étant beaucoup de choses, mais souvent, je vais confesser moi personnellement en voyant un Dieu qui est petit et limité. Non seulement petit et limité dans notre vie personnelle, mais également petit et limité par qu'est-ce que tu peux faire à travers ce monde qui est mauvais. Seigneur, je veux te confesser que souvent on voit l'Évangile qui nous a été clairement proclamé ici ce matin comme étant un Évangile qui me permet simplement, je dis respectueusement, d'avoir cet accès à toi, d'être sauvé, de jour pouvoir être devant ta face justifié et non pas comme étant un condamné. Mais je te confesse, Seigneur, que souvent on faillit de réaliser que cet évangile n'est pas simplement pour nous personnellement, mais qu'il a aussi un impact sur le monde. Il y a aussi un impact qui dépasse notre petite personne. Seigneur, je te confesse que ton Église, dans les décennies passées, a abandonné cette vision de l'Évangile qui transforme les peuples, les nations, pour les emmener à l'obéissance de Jésus-Christ. On a abandonné l'éducation. On a abandonné les soins aux pauvres. On a abandonné toutes les belles institutions, soit aussi les hôpitaux, tout ça, toutes les institutions qui, fondamentalement, ont été amenées et perfectionnées dans le passé par Seigneur, la foi chrétienne. Et on s'est replié dans nos églises, dans nos communautés respectives, et on a abandonné ce combat qu'on aurait dû continuer à livrer, Seigneur. Or, ce gap n'est pas resté vide. Parce que les humanistes, les païens, ont rempli ce gap-là. Et on en goûte aujourd'hui les fruits. Seigneur, je te prie que tu nous aides à considérer ces choses pour voir comment ton évangile doit être appliqué à tous les domaines. Comment Jésus-Christ, oui, est notre sauveur et notre roi à chacun de nous qui, par ta grâce, ont répondu à ton appel. Mais comment il est également le roi et le sauveur du monde, de ce qui est autour de nous, Seigneur. Et qu'est-ce que ça implique, tout ça? Seigneur, que tu puisses nous fortifier, nous encourager à méditer ces choses et à voir que Christ a son mot à dire sur la situation actuelle. Que ta parole a quelque chose à nous enseigner par rapport à tout cela. Et d'arrêter de nous laisser influencer notre jugement par ce monde séculier humaniste dans lequel nous sommes, Seigneur. Mais qu'elle soit transformée par ta sagesse, par ta connaissance. Parce qu'il vient de toi, parce qu'il est bon. Seigneur, je te prie pour les bergers que tu as placés ici et là, Seigneur, dans les diverses communautés chrétiennes ici à Québec. Et Seigneur, proclame que malheureusement, ceux qui décident volontairement de se d'obéir aux règles qui leur sont mises injustement sur leur tête par un État qui se veut Dieu, qui se veut sauveur et roi à la place de Christ. Fais du mal à ton peuple. Combien de tes enfants sont affligés par tout ça? Seigneur, que tu puisses, par ta grâce, toucher le cœur de tous ces leaders afin qu'ils disent non à l'autorité civile et oui à Christ premièrement. Le gouvernement n'a pas son mot à dire sur comment Jésus-Christ doit être adoré et quand est-ce que Jésus-Christ doit être adoré. C'est toi qui le dictes, parce que c'est toi le roi. Nous avons besoin d'être à tes pieds. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin d'être soudés comme communauté. Ah, c'est évident. Tu nous le montres ici clairement. On te prie, Seigneur, que tu fasses un travail au Québec pour, Seigneur, soulever une résistance saine, selon tes préceptes dans ta parole, pour la gloire de Christ. Seigneur, je te remercie de ce que tout est en toi. Comme tu dis, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. On est absolument dépendant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes ces choses que nous avons mentionnées, la réponse est en toi. Le secours vient de toi. Tu es notre tout, Seigneur Jésus. Aide-nous à réaliser davantage. Gloire à toi. Amen.
Amen.
Oh Seigneur, il y a des gens autour de nous, Seigneur, qui sont un peu comme l'homme dans le parabole du bon samaritain, des gens assommés sur le bord du chemin, blessés. Seigneur, il y en a qui le sont physiquement dans leur corps, il y en a d'autres qui le sont dans leurs finances, il y en a d'autres qui le sont dans leur psychologie, dans leur solitude, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, de nous mettre d'accord, Seigneur. Des gens autour de nous, Seigneur, montrer ta grâce, Seigneur, en action, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu sois glorifié, Seigneur. Tu sais quoi, ce qui se passe là. Amen.
Amen.
Il marchait où, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers. Et il n'y aura personne pour les trouver. Car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Mais nous, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuer. Merci Seigneur parce que tu es là, tu es roi des rois, tu es Dieu de tous les dieux. Nous sommes là comme des enfants auprès de son Père. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe dans ce monde difficile, ce monde de ténèbres. Même s'il y a des choses qui se passent, Seigneur, mais rien ne pourra nous séparer de toi. C'est toi qui es notre vie. On veut toujours marcher à ta présence. Seigneur, la persécution est là. Le monde est devenu méchant. Mais ce qu'on sait, tu es à la porte, Seigneur Jésus. Tu vois la perception des églises, tu vois le monde où est rendu, tu vois, Seigneur, nos cœurs qui est toujours attaché sur toi, Ne voulons pas nous séparer de toi, Seigneur. Aide-nous, sauve-nous dans ce monde. Envoie-nous la lumière pour qu'on puisse toujours résister à ta présence. Ô Seigneur, ô Dieu éternel, regarde la foi de ton Église. Regarde chacun de nous qui veut de toi ta bonté, qui veut de toi ton amour, qui veut de toi, Seigneur, avoir l'espoir dans toi. Seigneur, écoute nos prières. Qui te supplie, Seigneur, écoute la voix de tes peuples. Écoute la voix de tous ceux qui prient en vérité. Seigneur, je te prie pour que tu puisses aussi rassembler tes peuples à ton Église. Appelle chacun, ceux qui sont déjà, Seigneur, loin de toi, ceux qui sont déjà, Seigneur, dans les ténèbres, mais sans les savoir, fais revenir ton peuple, Seigneur. Fais-les revenir à ton Église. Seigneur, il y a des gens qui sont partis, mais dans l'ignorance, ils sont partis parce qu'ils écoutaient la voix des autres. Ils sont partis parce qu'ils ne pensaient pas dans toutes ces choses qui vont arriver après. Ils sont partis par le manque de foi. Seigneur, fais revenir ton peuple dans ton Église. Fais revenir tes brebis, Seigneur, dans ton pâturage. Seigneur, aide-nous de nous mettre ensemble dans la foi de ton Église. Fortifie nos pas, Seigneur, pour qu'on puisse marcher avec toi, malgré tout. Seigneur, ce qu'on est en train de voir, c'est ça devient Dieu de nos yeux. Mais nous savons que toi, tu es là, tu es présent, Seigneur. Rien ne peut nous séparer de ton amour, rien ne peut nous séparer de toi. Tu es toujours le Dieu unique. Tu es toujours le Dieu que nous aimons. Tu es toujours le Dieu que nous voulons, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, notre Église a besoin de toi. Notre Église a besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui es la tête de l'Église.
Amen.
Ô Éternel, aide-nous. Nous te supplions. Aide-nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons toujours, nous cherchons ta bonté, nous cherchons ton amour, nous cherchons ta lumière. Aide-nous, Seigneur. Le temps qu'on est, Seigneur, c'est le temps difficile. C'est le temps difficile pour nous. Seigneur, je sais que c'est dur. Nous ne savons pas quoi faire, Seigneur. C'est toi notre vie, c'est toi notre lumière. À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole et la vie éternelle. À qui? C'est toi où nous voulons demeurer. Fais-nous vivre, Seigneur, selon ta volonté. Ta volonté est là. Reviens vite nous sauver. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Oui, Père éternel, merci pour cette grâce qu'on va célébrer pour l'éternité parce que un jour, on va se trouver avec toi, dans ta présence, à cause de cette grâce que tu as eue envers nous. Seigneur, on veut te louer pour ça. Te louer pour le fait que même quand on faillit, même quand on oublie, même quand on tombe, tu nous relèves parce que, à cause de ta grâce, et qu'on peut espérer parce que même nos plus grandes fautes ne peuvent pas surpasser ta grâce qui est infinie. Et Seigneur, on te prie que tu nous rappelles ça jour après jour parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être ramené. Et Seigneur, on veut te prier que tu protèges Pasteur Colella qui devait retourner rapidement. Et on te remercie pour ce message que tu lui as donné, que tu nous as donné par sa bouche et qu'on avait besoin. Seigneur, on te prie de bénir le restant de cette journée, au nom de Jésus. Amen.
Amen.